Bon dimanche à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hoop Culture. Pierre-Armand Samama et moi-même, Théophile Messer, pour parler basket bien sûr, mais aussi culture au sens large, tout ce qui fait vibrer la balle orange à travers le monde. Alors, cette semaine, un sujet qui nous tenait un petit peu à cœur. Si vous avez écouté le podcast qu'on a enregistré lundi avec Frédéric Yang et Shai Mamou, vous savez qu'on est revenu sur les propos de Gilbert Arenas, qui expliquait en gros que s'il y avait un problème de défense en NBA, c'était la faute des Européens et qu'il suffisait de bannir les Européens de la Ligue pour renforcer le niveau défensif de la NBA. Ça nous a forcément fait réagir. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, Pierre, quand t'as lu les propos de Gilbert?
Voilà, exactement la même chose que vous. C'est tout aussi consternant que passionnant, parce que bon, alors, on connaît Gilbert Arenas. Il veut faire du buzz, il a son podcast, il est avec Kenyon Martin. Enfin, déjà rien que les deux, rien que les deux dans la même pièce, c'est Camoulox, tu vois, c'est incontrable. Voilà, il dit ça pour faire réagir. On a tous réagi, on a tous hurlé, sauté de sur nos canapés, déchiré, brûlé les maillots de Gilbert Arenas, qu'on va appeler Gilbert à partir d'aujourd'hui, parce que il mérite.
Ça me va très bien.
Voilà. Bon, après, ça ouvre un débat qui est passionnant et qui a été le vôtre, c'est-à-dire d'ouvrir sur au lieu de taper sur des gens, tapons sur les règlements. Et puis, si on tape sur le règlement, bah, on verra bien ce que ça donne. Et là, on sera à même de juger s'il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, de dire que les Européens, ils sont pas physiques, ils sont bon. Alors évidemment, il dit à part Rudy et Giannis. Bon, merde. Enfin, il me semble que le meilleur contreur de la ligue, c'est pas Zion Williamson et ainsi de suite, quoi. Donc bon, ça, évidemment, c'est de la pitrerie. Pour moi, c'est de la pitrerie. Mais ça ouvre un débat qui est intéressant. Voilà. C'est sûr que savoir comment on y arrive, pourquoi, est-ce qu'en effet, il y en a qui se reposent là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de dire quand Luka dit c'est plus facile de scorer en NBA qu'en Euroleague? Bon, bah, déjà, rien que ça donne la réponse définitive à Gilbert Arenas. En effet, si en Euroleague, on score plus difficilement. Et puis, peut-être que Gilbert Arenas, il devrait appeler son petit pote Kemba Walker pour savoir comment ça se passe en ce moment, les petits entraînements pour voir s'il se prend pas quelques tarots en Euroleague et qu'il n'arrive pas à scorer. Donc, c'est qu'il y a un problème, peut-être à l'inverse. Donc, à voir. À voir, et puis que même quand on voit le meilleur défenseur de la Ligue, ce qu'il a fait à la dernière, dernier défenseur américain à la dernière Coupe du Monde, là, Jaren Jackson Jr. Voilà, mais encore une fois, voilà, il suffisait de réfléchir un peu, il fait du, voilà, c'est le Trump du consultant, il fait du buzz, mais bon, il a qu'à faire un mur entre l'Atlantique et l'Europe pour empêcher les Européens de rentrer, et puis ils resteront entre eux avec leur formation débile, leur tournoi à AAU complètement pété. Et voilà.
C'était quand même un comble entendre Gilbert Arenas parler de défense. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs de sa carrière que le mot défense est sorti, a franchi ses lèvres. Donc c'était quand même magnifique. Nous, ce qu'on a eu envie du coup avec Pierre, pour pas, voilà, pas faire une redite de ce qu'on a pu faire lundi dans le podcast, c'était de parler tout simplement des joueurs étrangers qui nous ont plus fait kiffer en NBA. Voilà, les joueurs NBA, les joueurs étrangers qui ont apporté au jeu, notamment au jeu NBA, qui ont contribué à le faire évoluer, changer, ceux qui ont été révolutionnaires dans leur approche, ceux qui sont encore aujourd'hui encore en train de performer à fond la caisse. Voilà, on a eu envie de faire un petit récapitulatif de tout ça. Allez dans ce sujet-là. Ce que j'ai envie de te poser comme première question, Pierre, toi, c'est parmi ces joueurs donc qui sont pas nés sur le sol américain. Nous, on est suffisamment vieux pour se rappeler d'une époque où c'était encore une rareté encore de voir des joueurs non américains, ne serait-ce que se faire une place dans un roster NBA. Lequel t'as marqué en premier? Lequel, tu vois, tu as sur lequel tu as flashé en premier?
On en a, j'imagine que toi et moi, c'est un petit peu le même. C'est-à-dire, alors je vais te parler de NBA, c'est-à-dire un des premiers à avoir un petit peu déjoué le fait que son entraîneur puisse être méfiant, enfin, et la méfiance de, c'est Marcellonis, premier joueur, moi, que je me rappelle, avoir vu, tout simplement, parce que quand tu l'as dit fort justement, on vient d'un monde et d'une époque où on n'avait pas tous les matchs, on n'avait pas le League Pass, on n'avait pas la possibilité de voir tous les matchs, donc ce qu'on voyait, c'était des highlights. C'était des highlights dans une émission qui s'appelait NBA Action, qui durait 20 minutes, 20, 30 minutes, où il y avait des résumés de matchs, etc. Et Marcellonis, on le voyait, c'est-à-dire qu'on voyait des highlights, on voyait les résumés de matchs où Marcellonis performait, était là, c'était un nom qu'on voyait, on le voyait avec son beau maillot des Warriors, et Don Nelson lui avait fait confiance. Donc moi, c'est pas le plus grand pionnier, évidemment, on va en parler d'autres, des joueurs de l'époque qui sont arrivés, qui étaient peut-être plus attendus, mais Marcellonis, pour moi, c'était le premier joueur qu'on voyait bien blanc, bien moustachu, comme on aime, dans la ligue, et performer encore une fois, et qu'on découvrait, qu'on voyait, qu'on pouvait voir performer à ce moment-là où les images étaient rares.
Mais carrément, donc Šarūnas Marčiulionis qui a joué, tu disais, pour Don Nelson aux Warriors. Moi aussi, c'est un des premiers joueurs européens que j'ai vu en NBA, en tout cas, performer à ce point. Un joueur incroyable. Si vous en avez l'occasion, essayez de trouver la finale du championnat d'Europe 1995, finale Lituanie-Serbie. C'est un match complètement dingue, avec un festival et un duel Šarūnas Marčiulionis contre Sacha Djordjevic qui a pas de sens. Vraiment, les deux sont dans un état sont en fusion totale. Match hyper controversé, parce que pour vous faire un petit peu l'histoire quand même de ce match, c'est la première compétition à laquelle ce qui est devenu la Serbie, mais qui s'appelait à l'époque Yougoslavie, donc après la guerre civile avec la Croatie, c'est la première compétition internationale à laquelle donc la Yougoslavie pouvait participer. Ils étaient déterminés comme jamais, et en fait le match, c'est un bordel sans nom. À un moment même, la Lituanie refuse de revenir sur le terrain parce qu'ils ont l'impression de se faire voler par l'arbitrage. T'as Sacha Djordjevic qui va jusque sur le banc de la Lituanie, qui attrape Marčiulionis par la nuque, il lui hurle un truc dans les oreilles pour essayer de le convaincre de revenir sur le terrain. Finalement, la Lituanie revient sur le terrain. C'est la Yougoslavie qui remporte ce championnat d'Europe, et c'est assez fou parce qu'en fait c'est dans une bronca énorme, et au moment où les médailles sont annoncées, t'as notamment Sacha Danilovic qui est encore en train de faire des doigts d'honneur au public parce qu'il y a des huées qui descendent de partout. C'est un des matchs les plus fous que j'ai vu. Je fais cette petite parenthèse, mais ouais, Šarūnas Marčiulionis, effectivement. Et une fois encore, je pense qu'il faut souligner quand même à quel point Don Nelson a été novateur comme entraîneur, que ce soit sur l'utilisation du tir à trois points, sur le fait d'aller chercher des joueurs de grande taille et de les faire jouer de l'extérieur. On se rappelle qu'il faisait shooter Manu de Bol à trois points à une époque où c'était du jamais vu. Le fait de s'ouvrir à des joueurs comme Marčiulionis et lui donner des responsabilités, parce que voilà, il sortait du banc, mais il était vraiment responsabilisé dans le jeu. Don Nelson a fait énormément pour le développement de la NBA, et moi aussi, ouais, ça. Voilà, Marčiulionis, c'est légende, l'un des premiers joueurs européens effectivement que j'ai vu cartonner à ce niveau-là.
Et c'était c'était des pionniers dans le sens de joueurs européens performants en NBA, mais c'était surtout les pionniers dans la motivation des équipes internationales et de leurs coéquipiers. On les voyait dans les compétitions quand ils jouaient les États-Unis, où la plupart étaient. On se rappelle les JO 92, on se rappelle de toute cette période-là avec des étoiles dans les yeux, ils voulaient prendre des photos avec les gens, et d'avoir des gars comme Marčiulionis ou Drazen Petrović de dire: oh les gars, il n'y a pas moyen, moi je joue avec eux tout le temps, on va les taper, on va y arriver, ils sont humains comme nous, voilà. Et je trouvais que c'était des personnages très intéressants, et c'était d'autant plus intéressant ce que tu dis de les voir un petit peu, pas en retrait, mais forcément beaucoup plus humbles en NBA parce qu'ils avaient un rôle un petit peu restreint. Et de les voir des lions et des monstres de leadership après la confiance que ça leur donnait en sélection. C'était génial, ça.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. En fait, j'avais le premier vrai entraîneur de basket que j'ai eu, qui s'appelait Gérard Sora, qui était entraîneur à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, pour vous raconter un peu ma vie. Il était passionné de basket et de basket yougoslave. Très tôt, il est parti voir des championnats d'Europe à travers le monde, aller voir Split. On avait 15 ans, il essayait de nous faire jouer avec les mêmes systèmes de jeu que Split de l'époque. Il était passionné de ça. Et c'est vrai que nous, il arrêtait pas de nous parler de joueurs européens. C'est lui, la première fois qu'il nous a parlé de Tony Kukoč, de Dino Raja, ces joueurs-là. Donc avant qu'ils arrivent en NBA, à un âge où finalement moi je n'avais même pas accès aux matchs d'Euroleague ou grands matchs de championnat d'Europe, j'avais déjà entendu ces noms-là. Et après, de les voir arriver en NBA, c'est vrai que On reviendra tout à l'heure sur Petrovic et ou Divac, bien sûr. Mais l'arrivée de Toni Kukoč, je m'en rappelle très bien parce que justement, mon coach n'arrêtait pas de nous rabattre les oreilles avec ça. Il avait une vieille voiture là dans laquelle il nous emmenait au match. Et c'était un petit peu, tu sais, on luttait pour pas se retrouver devant parce qu'on savait que si on se retrouvait devant à côté de lui, il allait nous rabattre les oreilles avec ses anecdotes et nous dire, ouais, à l'arrière de cette voiture, une fois, j'ai ramené Toni Kukoč parce que il pleuvait sur la sortie de la salle de l'entraînement. Bref, il nous ramenait toujours ses anecdotes. Et donc, arrive les JO de 92, le fameux face-à-face entre Team USA et la Croatie avec Scottie Pippen, voilà, et Jordan qui avait ciblé Toni Kukoč en disant on va lui faire la misère. Et je me rappelle, malheureusement, voilà, après le match de poule notamment, je me rappelle après être retourné voir mon coach en me disant hey, ton Toni Kukoč là, je crois qu'il allait tout révolutionner. Il s'est quand même bien fait manger par les joueurs de Team USA. Mais voilà, derrière Toni Kukoč, carrière incroyable. Je continue de penser que s'il arrivait aujourd'hui, que le même Toni Kukoč aujourd'hui serait encore plus fort en NBA parce qu'on n'aurait pas essayé de le réinventer, de lui faire prendre une tonne de muscles pour essayer de le faire jouer. Finalement, les Bulls s'en sont servis comme une espèce de stretch fort avant l'heure, alors qu'en Europe, c'était un arrière qui pouvait porter le jeu comme le faisait Rigaudo, comme le fait aujourd'hui Luka Doncic. Je pense qu'il aurait encore été, le jeu actuel aurait été encore plus... fait du moins le jeu NBA pour un joueur comme Toni Kukoč. Donc moi aussi, voilà, l'un des joueurs qui m'a le plus marqué parmi cette vague d'étrangers incroyables.
Toni Kukoč, déjà, les coronesses d'arriver à Chicago après ce qu'ils lui mettent au JO, parce que c'était pas simple. Deux constats difficiles déjà. Moi, je me rappelle, Toni Kukoč, pour moi, c'est le mec qui se faisait taper la balle par Fred Forte en 93. Lors de la finale de l'Euroleague. Donc déjà pour moi, j'avais la même réaction que toi, genre c'est ça Toni Kukoč. L'année d'avant, on le voyait, mais j'ai quand même le souvenir d'un gars donc qui raconte par la suite. Toni Kukoč, il a raconté mille fois ces anecdotes de ce match, ce premier match de poule contre Team USA où il a pas compris. Parce que pour lui, c'était ses futurs coéquipiers et c'était limite pourquoi sont-ils si méchants. Il comprenait pas. Mais oh, la réaction du mec en finale quand même. Rappelle-toi la finale des JO qu'il fait de Toni Kukoč où il montre enfin le joueur que c'est. Et c'était pas facile parce que psychologiquement, il aurait pu être démoli par ce qui s'était passé. Moi, on l'a vu arriver au Bulls. En plus, peu cher, le mec, il arrive, Jordan se casse, donc il se dit, il se retrouve là-dedans. Première saison, Phil Jackson lui fait confiance. Il y a cette histoire ahurissante de playoff contre New York où Pippen ne veut pas rentrer sur le terrain, où d'ailleurs il va s'excuser, mais sur le coup, et l'autre rentre son shoot comme si de rien n'était. Mais c'était normal. Je pense que le palmarès, la période, le stretch de Toni Kukoč entre 89 et 98. Enfin, c'est tu parles de winning time, c'est plus gros que Jordan, c'est plus gros que tout, entre les MVP trois Euroleague, trois fois MVP de l'Euroleague, plus les trois titres, plus je crois qu'il est meilleur sixième homme. Ça n'a aucun sens cette période, c'est 9 ans de Toni Kukoč dans l'histoire du basket mondial. Je pense que c'est le plus grand joueur du grand palmarès de l'histoire du basket mondial à ce moment-là. C'est totalement fou, plus les médailles d'argent olympiques. Et moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'était son entente improbable avec un gars comme Rodman, quoi. Parce que Kukoč, c'est un dieu vivant quand il arrive en Europe. Et malgré ça, bon, il est un dieu vivant, il arrive face au seigneur de l'univers. Mais c'est le type qui tout de suite s'arrête, tout de suite saute. Il fait des finales contre d'autres Européens. Je me rappelle la manière dont il éteint Detlef Schrempf. On en reparlera de Detlef Schrempf sûrement tout à l'heure. Mais en 96, quel génie, mais c'est... Quelle classe en plus dans la manière de se comporter, un gagnant, mais voilà.
J'adore. Ouais, joueur incroyable, super QI basket. Effectivement, pour rappeler un peu l'anecdote dont tu parlais, parce que je pense qu'elle est importante, c'est effectivement match de playoff contre les Knicks, Scottie Pippen qui, en l'absence de Jordan, fait une saison incroyable. Il est dans la discussion pour le trophée de MVP, il est MVP du All-Star Game. Voilà, il porte ses boules sur ses épaules, alors qu'on pensait...
Alors, il est MVP du All-Star Game... Non, tu as raison. Non. En 95, non ?
Ouais, là, février c'est 95.
94, ouais.
Là, c'est la saison d'avant.
Mais okay. Il est déjà. C'est l'année où il met le fameux dunk. Je crois que c'est l'année où il met le fameux dunk sur, euh, sur Ewing. Ewing. Ouais, c'est ça. La dernière
année. Je me mélange peut-être effectivement pour son MVP
de All-Star Game. Incroyable.
En tout cas, voilà, ils portent cette équipe des Bulls sur que tout le monde imaginait n'avoir aucune chance. Ils sont dans cette série face à New York où effectivement, bah, ils sont compétitifs et ils sont voilà, c'est une série qui est très accrochée. Fin de match, alors que Pippen fait un très bon match, il y a Chicago à la balle pour le dernier tir et Phil Jackson finalement demande à Pippen de faire la remise en jeu. Donc pour Tony Kukoc, un tir est chose extrêmement rare parce que Pippen, ça a quand même été finalement le coéquipier un peu exemplaire du côté des Bulls. C'est-à-dire que t'avais Jordan qui gueulait, qui pointait les mecs du doigt, et Pippen c'était le mec qui allait les prendre par l'épaule, leur expliquer, enfin les garder impliqués. Et là, chose vraiment étonnante pour le coup, Pippen qui de rage refuse de rentrer. Et c'est un coup dur parce qu'en fait, derrière remise en jeu parfaite, Tony Kukoc qui rentre le tir pour la gagne, et finalement derrière
dur.
On ne parle que d'un truc, c'est du shoot super dur, et on ne parle que d'un truc, c'est le fait que Pippen ait refusé de rentrer pour cette dernière action. Et on le voit un petit peu dans le documentaire The Last Dance, il me semble qu'ils reviennent dessus. C'est quelque chose qui a quand même pas mal terni son image. Voilà, c'est vraiment regrettable parce que c'est pas du tout un trait de personnalité, même si voilà, on sait que c'est un mec complexe. C'était un écart, mais c'est pas du tout représentatif de la personnalité qu'il était, je pense.
Mais ça prouve la force de caractère de cette équipe et le génie de Phil Jackson finalement d'avoir upgradé tous ces gars-là, d'avoir fait de Kukoc le 1,5 pratiquement, la preuve à ce moment-là, et l'autre revient et d'avoir dit à tout le monde, allez tout le monde redescend d'un cran, et malgré tout que ça ait fonctionné, bon alors on ne sait pas comment ça fonctionnait en interne, mais ça a dû être quand même un choc pour un mec comme Tony Kukoc qui était aussi fort et aussi valorisé en Europe, d'arriver, et je pense que c'était le vrai gros problème de tous ces gars-là qui et c'est la différence avec Tony Parker, on parlera tout à l'heure bien sûr, mais Tony, lui, il est arrivé en disant il avait rien fait en Europe et du coup il avait tout à faire, tandis que les autres avaient tout gagné, et c'est ce qu'il disait Parker avec la différence de traitement entre lui et Manu Ginobili qui avait déjà gagné, qui arrivait, qui était un joueur presque accompli, il arrive à 25 ans, il a déjà gagné. Et lui, bon, bah, on l'a utilisé sur ce qu'il avait su faire et ce qu'il avait su gagner en Europe. Donc, c'était différent. Moi, un joueur, on reparlera de beaucoup tout à l'heure, mais c'est intéressant de faire le lien entre tous. Mais c'est une des raisons pour laquelle le basket, la NBA, c'est à mon sens globalisé, développé. Et une des raisons principales pour laquelle l'aventure Dream Team a eu lieu, c'est Arvydas Sabonis. Qui a une carrière un petit peu gâchée, totalement gâchée par les blessures. Il faut savoir que Sabonis c'est la première licorne. Il y a pas de si la licorne originaire, c'est bien originel, c'est bien lui. Son prime jusqu'à 24 ans, je crois, il a des blessures à la jambe à répétition. Il vient en NBA, il fait 7 saisons plus que correctes avec Portland. Un énorme motif, on en avait parlé, parce que certainement et encore aujourd'hui un des meilleurs passeurs. Pivot passeur de l'histoire du basket tout court, et tellement dominant avec la Russie, donc champion olympique, que la NBA a dit on siffle la fin de la récré et on y va. Donc une révolution, il a révolutionné le basket mondial, bien malgré lui, mais par son génie. Voilà, Arvydas Sabonis père, vraiment, si vous avez l'occasion, pareil, allez regarder. Alors c'est pas... On n'est pas dans l'élégance la plus absolue, déjà physique, avec des shorts bien courts, des coupes mulets, des bandeaux autour de la tête. Mais voilà, le génie à l'état pur. Je connais, toi, ton amour du pivot taffeur et du pivot avec des skills. Bon, je crois qu'il y a peu d'équivalent. Et je pense que tu nous parleras sûrement de Nikola Jokic, mais je pense que Jokic est l'héritier le plus absolu d'un type comme Sabonis.
Bah, je pense, voilà, tu as tout à fait raison de le dire, on est obligé de le mentionner, parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas connu Arvydas Sabonis, c'était Jokic avant Jokic, un talent de passeur incroyable, un shooter à une époque où personne, les grands prenaient pas de tir de cette distance-là, et le plus fou, c'est ce dont tu parles, c'est qu'en fait, la NBA n'a jamais vu le vrai Arvydas Sabonis, celui d'avant ces deux ruptures des tendons d'Achille. Parce qu'en fait, la différence, c'est que c'était Jokic avec du jump, en fait. Et que si vous avez l'occasion de croiser des anciens, des gens comme moi, j'avais eu l'occasion, quand je travaillais pour Basket News, le rédacteur en chef de l'époque, Didier Lecor, avait eu l'occasion de voir le jeune Arvydas Sabonis d'avant les blessures. Et il me racontait que c'était fou, en fait, que c'était un grand qui courait avec du jump, avec tout ce talent dont tu parles. Et un petit peu comme Jokic, un joueur qui n'avait pas du tout la volonté de tirer la couverture à soi. Tu sais, je pense que finalement, la différence entre il y a un parallèle à tirer entre, tu sais, la différence de mentalité entre Tony Parker et Boris Diaw, et la différence de mentalité entre Drazen Petrovic et Arvydas Sabonis, c'est un petit peu la même, en fait. C'était
ouais,
un joueur pétri de talent, mais qui n'avait pas le besoin d'imposer sa, comment dire, de s'imposer, ou du moins de tirer la couverture à soi d'une certaine manière dans le jeu. Donc ouais, Sabonis incroyable. Et même ce que tu disais, même à l'âge où il arrivait, après toutes ses blessures, quel plaisir de le voir jouer avec Portland. C'était joueur incroyable.
Ah oui. Et puis même tout, c'est là où on se disait, mais quelle folie, parce que tout abîmé, tout, et puis j'avais déjà eu une sacrée carrière avant, mais il dominait. Oui, il dominait à sa manière. Il montrait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et il a mis Portland de nouveau presque. Enfin, playoff up, pas contender, parce que c'est un peu gros, mais bon, quand même, enfin, il a fait du mal à beaucoup de gens, quand même, en NBA, le pépère.
Ben, c'est clair. Et puis voilà, dans cette première vague, avec Sabonis, avec Petrovic, il y a aussi, bien sûr, Vlade Divac. Voilà, on vous recommande encore, Pierre, t'en avais parlé là, du fantastique documentaire
Once
Brothers. Là. Voilà, on vous invite à vraiment aller dénicher ce documentaire, il est vraiment incroyable. Limite, apprends tout ce que tu dois apprendre sur Petrovic et sur Divac. Tu le vois dans ce documentaire qui est fantastique.
Alors, peut-être le meilleur passeur, le meilleur pivot passeur de l'histoire de la NBA, à mon avis, enfin de l'histoire du basket européen et de la NBA, un génie. L'école yougoslave à son climax. Un peu de mal à s'adapter quand il arrive, parce que quand tu arrives à LA en plus, déjà. Je me rappelle, il avait raconté, je crois que c'est dans ce documentaire, ou je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre, la difficulté de dire sur le climat. Le mec, il arrive, il fait beau tout le temps. Ça courait beaucoup plus vite. C'était ses contre-attaques en permanence. Il y avait moins de jeux posés. Il y avait. Et puis, on avait cette impression du rêve éveillé. Je ne sais pas si tu te rappelles de ses premières finales qu'il joue, où c'est lui l'Energizer des Lakers. Beaucoup de gens ont oublié. Il fait de super finales. C'est lui qui met un chantier dans la raquette des Bulls en 91. Il y a cette fameuse image où il met un panier à LA avec la faute. Il se retourne, genre, qu'est-ce qui vient de se passer avec Magic Et on voyait le bonheur de Magic. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'était flagrant de jouer avec ce gars-là. Mm. Et il prend sa retraite juste après, mais on sentait que Magic avait un. Je disais, mais ce mec-là, enfin voilà, on est reparti, on est encore là, quoi. En 91, ils sont encore là grâce à Vlade Divac. Alors certes, il y a encore cette équipe qui est en fin de course, mais reste en finale grâce à Vlade Divac. Et les gens ont oublié. Les gens, ils se rappellent de Vlade Divac aux Kings, où ils fit parfaitement. Et ils se rappellent de Vlade Divac parce que c'est le sacrifié de la draft de Kobe. Et puis, c'est des types qui avaient leur sélection. Voilà encore des gars qui avaient la. Enfin, c'était comme Tony, comme tout. C'était impossible. Et comme Nico encore, on ne rate pas une campagne. Quoi. L'été, on s'en fout. On va taffer. On ne rate pas une campagne. Ça n'existait pas de dire bah, je ne fais pas celui-là. Bien sûr, je ne fais pas. L'euro, non, pas cette année. Je ferai la Coupe du Monde, mais je ne fais pas l'euro. Je n'ai pas envie. Et c'est. Voilà. C'est ce qu'on voit chez les plus grands. Sur Kylian Mbappé, jamais tu le verras dire moi je fais pas l'euro cette année, parce qu'il y a les JO, je fais pas. Non, ça existe. Donc Vlade Divac, et encore ce maillot, même tu vois, si j'avais je pouvais m'offrir certains retrouver certains maillots, je pense que le 7 de Tony Kukoc et Vlade Divac, en plus ils jouaient tous avec des numéros de entre 4 et 15, donc c'est ça qui nous a kiffé. C'était ça, tu pouvais les mettre même pour jouer au foot, tu vois.
Ouais, c'est clair. Et puis, eh ben, le pendant, bah, c'est Drazen Petrovic. Tu es obligé d'en parler quand même malgré tout. Le petit Mozart du basket européen. Là encore, bah, vraiment, je me répète, mais le documentaire, pardon, Once Brothers, il est vraiment incroyable. Et puis la tragédie de ce joueur qui finalement a rongé son frein longtemps. À Portland, l'équipe était quand même vraiment très talentueuse. Il n'arrivait pas à trouver sa place. Finalement, il est transféré ou il part à New Jersey avec les Nets et Derrick Coleman. Et puis là, il se révèle au visage de toute la NBA. Et malheureusement, bah voilà, ce tragique accident de voiture à l'été 93, justement dans le cadre de la sélection, il partait rejoindre la sélection nationale. Et ce décès au moment vraiment où il allait prendre son envol, où il avait enfin le respect de la ligue et de ses pairs au plus haut niveau. Voilà, joueur qui a révolutionné aussi les choses, je pense. Notamment sur l'aspect, quand les Américains parlent du jeu européen, ils parlent beaucoup, beaucoup du jeu de passe. Drazen Petrovic, scoreur incroyable, voilà, scoreur incroyable avec une mentalité. Enfin, c'était un petit peu la Mamba mentality avant la Mamba
Oui,
mentality, à rester à
exactement ce que j'allais
l'entraînement
dire.
des heures et des heures, à se buter, à enchaîner les séries de tirs sous toutes ses formes, etc. Et qui, effectivement, il y a eu, pour lui aussi, il y a eu une période d'adaptation à la NBA, mais à force de travail et de détermination qui était en train de gravir les échelons pour s'imposer au plus haut niveau.
Je pense qu'il aurait, révolutionné beaucoup de choses avant l'heure, c'est-à-dire il se serait écarté, il aurait amené le tir à 3 points peut-être beaucoup plus tôt. J'aurais adoré voir Kobe bosser avec Drazen Petrovic. Est-ce qu'il aurait aimé jouer un rôle de mentor? C'est pas sûr, parce que c'était un gars qui était centré sur lui-même, sur son talent à lui, et qui avait pas envie de taffer avec les autres. C'était un taiseux, mais je me rappelle de son regard de possédé quand il jouait contre Jordan, et de deux choses. Quand tu voyais les clips à l'époque, dans les années 80, ouais, 93, les clips I Love This Game, tu le voyais, il était déjà
Ouais.
un des visages de la ligue. Et aujourd'hui encore, tu vas chez les copains de Basket for Ballers, ou etc., il y est le maillot. Il y est, tu sais, avec le maillot, cette espèce de dégradé horrible des Nets, mais le maillot de Drazen Petrovic, il y est. Alors que tu trouves plus facilement presque un maillot de Drazen Petrovic que de Dirk Nowitzki. Aujourd'hui encore. Donc c'est pour dire ce qui aurait pu advenir. Oui, il a fait. Je crois que personne n'a jamais dit, bah, c'est surcoté. Tout le monde a toujours dit, ouah, limite, qu'est-ce que ça aurait été, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que lui et Mathieu Lenis, au bout du compte, il y a beaucoup. Enfin, les propos de Tony Parker que vous avez certainement dû voir passer là, chez les copains de First Team, ont pas mal fait réagir là. Mais c'est vrai que Mathieu Lenis et Drazen Petrovic ont ouvert la voie en fait. Quand même, ont montré que tu pouvais être meneur de jeu, porter le jeu offensif d'une équipe. Alors en sixième homme pour Mathieu Lenis et puis pour Drazen Petrovic finalement comme titulaire du côté des Nets. Voilà, ils ont ouvert grand la porte à une époque où encore on se disait, enfin les équipes NBA regardaient ce qui se passait en Europe en essayant d'aller chercher des bigs. Ils allaient chercher Vlade Divac, Arvydas Sabonis. C'était ça les joueurs qui étaient ciblés. Ils n'y allaient pas forcément pour aller chercher des arrières. C'est eux vraiment qui ont permis d'ouvrir la porte. À ce type de profil.
Alors après bon, on va peut-être parler de Tony, mais c'est vrai que le moment où déjà Tony il avait un déficit de taille incroyable, et Popovic avait dit clairement à RC Buford, quand RC Buford est arrivé avec les cassettes de Tony en disant regarde ça, on a en fait c'était un peu la fin d'Avery Johnson, et en fait lui il disait on a besoin de ça, on n'a pas besoin d'un meneur, on a besoin de ce meneur. Et Popovic avait eu cette réflexion, il avait dit, si ce que tu vas me montrer est un Européen, si c'est pas un cousin Nowitzki ou un shooter qui finit en itch, t'oublies tout de suite, regarde pas. Et finalement, il a regardé, et le génie de Popovic. Mais cette revanche de Tony, cette phrase qu'il a toujours chevillée au corps en disant, limite, ça, c'est pour tous les meneurs européens qui ont galéré. Et j'ai galéré tout le temps, il a fallu que je fasse mes preuves pendant des années, presque jusqu'en 2007. On disait qu'il était trop soft, etc., et qu'il jouait que sur sa vitesse et jusqu'à ce qu'il change son shoot. Mais c'est vrai que cette défiance, elle a été là pendant des années. Mathieu Ioannis, pas Mathieu Ioannis, parce qu'après les autres qui étaient arrivés, c'était pas non plus des meneurs. Et même ça, même avec la présence de Tony, les meneurs européens, bah, ils ont un peu galéré quand même. Je parlerai peut-être d'un, ou je peux en parler tout de suite. Un des plus géniaux meneurs de l'histoire du basket, Ricky Rubio, qui a été la première victime de ses propres highlights YouTube dans le basket européen. et qui a galéré, qui a fait une, après, une carrière NBA aussi improbable que son shoot et aussi soyeuse que ses passes, mais pareil, lui, il a galéré. Le plus grand passeur, peut-être, regarde, Nando, ou le type qui fait des passes que on n'arrivera jamais à faire, même seul, même avec une Teodosic. Enfin bon, il y a des passes de Teodosic, ça n'existe pas, à part dans le multiverse, ça n'existe pas. Et c'est des types, malgré ça, tu sens une défiance. Même Dennis Schroeder, qui est MVP de la dernière Coupe du Monde, tu sens qu'il y a encore une défiance de lui parce qu'il est meneur de jeu européen. C'est dur quand même.
C'est non, dur. C'est clair. Et puis Tony, il arrivait tellement jeune, parce qu'il faut se rappeler, ça aussi, on l'a oublié. Mais il arrivait à un âge où même dans le championnat de France, en fait, on ne responsabilisait pas des joueurs aussi jeunes sur le poste de meneur de jeu, où tu étais encore un peu à l'ancienne de « non, il faut d'abord que tu fasses tes preuves, c'est d'abord les vétérans qu'on va laisser devant ». Alors les implications ne sont pas les mêmes, bien sûr, dans le jeu FIBA, parce qu'il y a des histoires de montée et descente qui n'existent pas en NBA, bien entendu. Mais c'est vrai que Tony Parker, c'est quand même la précocité de ses performances pour un joueur qui, très honnêtement, et je le dis avec énormément de respect, à ses débuts, n'avait pas tant d'atouts que ça, finalement. Il avait sa vitesse incroyable, son contrôle du corps qui sont hors normes, mais derrière, comme tu disais, c'est pas un joueur de grande taille, c'est pas un joueur qui saute haut, c'était un joueur avant tout qui allait très vite, il avait pas de tir du tout à son arrivée en NBA, et derrière, par contre, éthique de travail irréprochable. C'est, je pense, l'un des joueurs qui a tiré le plus de son potentiel. Il en a tiré jusqu'à la dernière goutte. Et ça, c'est tout à son honneur. Pour Ricky Rubio, il a été handicapé par son manque de tir, parce que finalement, il a quand même été drafté haut. Tu vois, il est passé par des blessures. Mais là, c'est pareil. Les gens se rendent peut-être pas compte du phénomène qu'a été Ricky Rubio. On en entendait parler. Il avait 16 ans. Il avait réussi notamment un quadruple-double dans un championnat d'Europe U16, si je me trompe pas, ou U18, je m'en rappelle plus, où il était genre surclassé. Il faisait des étés où il jouait deux compétitions. En fait, il jouait celle de sa classe d'âge et il était surclassé pour jouer dans la suivante. C'était une espèce de, avec toute proportion gardée, de mini LeBron à l'échelle européenne, ou un gamin dont on entendait parler depuis qu'il avait ses 16 ans. Et c'est assez intéressant, je sais pas si t'as vu, c'est maintenant qu'il est revenu au Barça, où il explique qu'il y a un moment, en fait, le basket a bouffé sa vie, en fait, où il savait plus qui il était, parce qu'il était dans cette machine du sport professionnel depuis qu'il avait 16 ans, à être sous la pression la pression médiatique, la pression sportive, les blessures, vivre loin de chez lui. Enfin voilà, c'est un joueur pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection, puis un 18 ans et joue une finale des Jeux Olympiques contre Team USA et tient sa place. C'est incroyable. Non,
et puis un gamin éminent. Alors un gamin, parce qu'on a toujours eu l'impression que c'était un gamin. Déjà physiquement, on avait toujours l'impression que c'était un gamin. Et un type éminemment attachant. Et tu parlais de respect, il a le respect de tout le monde en NBA, malgré son tir, etc. Je pense que ça devait être un coéquipier incroyable. Bon, voilà. Juste pour revenir sur Tipeee, on parlait de Martulonis, c'est Terry Porter. Tu te rappelles le Terry Porter, ancien meneur émérite des Blazers, qui était donc le deuxième meneur à l'époque d'un autre Tipeee des Spurs, c'était le vétéran des Spurs avec Avery Johnson. Il dit la différence avec Tony Parker, c'est qu'on sentait que ce gamin, il avait bouffé du basket NBA, il avait regardé des matchs et des matchs entiers, et qu'il n'arrivait pas dans l'inconnu absolu. Et Tony Parker, finalement, c'est pas pour rien si son meilleur pote, c'est Thierry Henry. Parce que, je sais pas si tu te rappelles ce documentaire alors je sais plus comment il s'appelait, c'était une sorte des yeux dans les bleus, mais en 2006. Et alors c'est pas les yeux dans les bleus, mais c'est un documentaire sur cette Coupe du Monde, et tu as une interview, et ils arrivent quart de finale, il y a un France-Brésil, où Zidane est touché par la grâce. Toi qui regardes peut-être pas le foot, t'as peut-être pas souvenir de ce match, mais voilà, contre un Brésil avec tous les joueurs de l'époque. Et donc t'as des interviews croisées des joueurs français, et t'as un Willy Sagnol qui va dire ouais, c'était quand même, on arrive dans le couloir, et puis on voit Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, tous ces grands joueurs. Et puis t'as Thierry Henry qui dit nous on était là, on était prêts. Et t'as Makelele qui dit pas les couilles, moi. Ronaldi, il dit, clairement, il dit Ronaldo, machin, bidule, bas les couilles, moi. Moi, j'arrive. Je regarde même pas. Et c'est ça. Tony Parker, c'est ça. Il arrive dans le vestiaire. Il dit, je me retrouve face à David Robinson, Tim Duncan. Une fois qu'il était sur le terrain, l'autre, au bout de 5-6 matchs, il lui dit, tu vas être titulaire. Bon, vas-y. Pas de problème. Pas de problème. Ça n'a jamais été un problème. Et il est arrivé, il s'est dit, je suis un peu faiblard, parce qu'il s'est quand même mangé des finales contre des sacrés bavards. Quand il se mange la défense des Pistons, c'est là où il se dit, je vais changer mon shoot. Mais première année, c'est un peu compliqué. Il monte à 80 kilos. Et tout au long de sa carrière, il est à 80 kilos. Donc quand tu dis tirer la quintessence d'un physique d'une capacité à jouer, moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, les débats sur la mentalité, la manière d'être, il y a beaucoup de haters de Tony Parker, etc. On n'en est pas là pour parler de ça. On parle là pour reconnaître les génies des uns et des autres. Le meneur européen, il doit beaucoup à Tony Parker, comme le pivot européen doit beaucoup à Arvidas Sabonis. Hein.
Non, mais je suis d'accord, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu sais, tu as parlé de Teodosic, c'était un peu plus tard, mais un joueur comme Dejan Bodiroga, par exemple, qui, talent incroyable, qui a tout gagné en Europe, qui n'a jamais voulu traverser l'Atlantique pour aller jouer en NBA, parce qu'il savait que là-bas, même si jamais il avait sa chance, jamais on le laisserait jouer son jeu. C'est-à-dire que Dejan Bodiroga, c'est le mec à qui tu filais les ballons dans les quatrièmes quart-temps, en fait. C'est lui qui allait gérer les dernières possessions. Tu sais, dans la gestuelle, quand je vois jouer Josh Giddey, il me rappelle beaucoup Bodiroga dans la gestuelle, tu vois. Non, je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais il m'y fait penser.
Entre Timothy Chalamet et Bodiroga.
Voilà, c'est ça. Le mix improbable, totalement improbable. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui savaient que la NBA n'était pas prête à faire confiance à un joueur européen avec des qualités autres, différentes de celles que les équipes NBA sont habituées à chercher, en fait. Mais c'est un joueur qui aurait... Si vous tapez Bodiroga Carmelo Anthony, je l'ai peut-être déjà dit une fois dans YouTube, tapez cette recherche, vous verrez le jour où Carmelo Anthony s'est dit « Non, la défense, j'arrête, ça sert à rien. En fait, il y a un mec qui ressemble à rien en face de moi qui me fait sauter dans tous les sens. J'arrête, je prends ma retraite de ce côté-là, ça sert plus à rien. » Mais
là, t'as raison. Vas-y. Quand tu disais le Bodiroga, j'allais te poser la question, pour toi, le plus grand joueur étranger à jamais avoir foulé les parquets NBA, c'est peut-être lui, mais je pense qu'on était sur un autre degré de fame et d'ego, et je pense que c'est des types qui n'auraient jamais supporté qu'on leur dise tu joues pas le quatrième quart-temps ou tu vas jouer 8 minutes par-ci, et tu shoots 3 fois, si tu rates, tu sors, quoi.
Voilà, et c'est des compétiteurs, un petit peu comme, tu sais, le choix de carrière qu'a fait Nando Docolo, je le trouve éminemment respectable, en fait. Il est parti en NBA, il a vu qu'il pouvait jouer, quand il a décidé de rentrer, il avait encore des offres, hein. C'est pas comme si aucune équipe NBA ne voulait le signer, même Toronto lui avait fait une offre, voulait le garder, mais il s'est dit, mais là, je suis dans un milieu où, du jour au lendemain, je peux passer d'une équipe compétitive à me retrouver tradé dans je ne sais pas quelle équipe qui va tanker pendant 5 ans. Je ne vais pas jouer de titre. Je suis allé à la merci des GM, à la merci des coachs. Ou alors, je peux rentrer en Europe, gagner quasiment autant. Il est rentré, il est signé au CSKA Moscou. Je veux dire, une équipe dans laquelle il joue l'Euroleague. Il gagne l'Euroleague, le championnat, la coupe, où tu es le meilleur joueur d'Europe et où tu sais que tu vas pouvoir être compétitif, vraiment jouer pour quelque chose. Regardez le palmarès de Nando Docolo, c'est un truc de malade mental. Et en fait, il y a plusieurs joueurs qui ont fait ce choix-là, comme Juan Cannavaro, un peu même chose. Il vient en NBA pour être avec son pote à Memphis. Pau Gasol est tradé aux Lakers, il voit qu'il peut jouer, hein, si vous regardez ses stats, elles sont correctes, hein, en sortant de banc, etc. C'est ouais, mais là, je préfère quoi ? Être là, sixième homme, aux Grizzlies qui vont nulle part, ou rentrer au Barça et jouer l'Euroleague tous les ans, quoi.
Vincent Poirier, pareil.
Voilà, exactement, ou Teodosic, c'est des joueurs qui ont fait le choix, qui se sont dit, finalement, la NBA, je vais rentrer et je vais être un joueur majeur, gagner des titres, être dans des équipes compétitives, et moi je le comprends ce choix-là.
Je pense que c'était plus simple à une époque où il y avait encore les, comment dire, pas les dream teamers, mais encore ces méga stars que les joueurs européens avaient idéalisé. C'est-à-dire de venir et de dire, c'est Tim Hardaway, c'est Tim Hardaway, quoi. Je vais jouer en backup de Tim Hardaway. Mais aujourd'hui, moi, je comprends qu'un mec comme Teodosic, il n'ait pas envie d'être le backup de Terry Rozier, du mec comme ça. Et pas envie, ça le fait chier. Je peux comprendre. Je peux complètement le comprendre. Et c'est la question que je voulais te poser. C'est un peu l'anus horribilis pour les Français cette année. Clairement, hein. Ivan, Franck Nilikina, Kylian Hayes, Théo Malédon, là, plus récemment. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, toi? Parce qu'il doit y avoir des agents qui leur disent, bon, ben non, on va essayer. En attendant, là, ils jouent pas. Ils ont personne. Bon, et même Evan, là, est-ce qu'il s'éclate à Détroit? Je suis pas sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, toi? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Il faut rentrer. Il faut tous aller à Lasvel. Parce que Tony doit leur parler à ces gens-là. Il doit jouer un rôle de mentor. Je suis sûr qu'il parle à ces gens-là.
Ouais, c'est compliqué. Pour un joueur comme Evan, moi, je pense que sa place à la NBA, il a prouvé qu'il pouvait jouer en NBA. C'est un joueur établi, en fait. Ce qui s'est passé.
C'est pour qu'il s'éclate.
Voilà, ça c'est autre chose. Mais je pense que son objectif, c'est de rester en NBA. Et je pense qu'encore une fois, je continue de le dire, je pense qu'il peut trouver un rôle dans une équipe NBA qui lui convienne. Pour Kylian Hayes et Frank Ntilikina, la question elle est un peu différente. Alors Frank, ça fait un moment maintenant qu'il est en NBA, qu'il trouve pas sa place. Là, effectivement, c'est une question un petit peu de choix de vie. Qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière? Qu'est-ce que tu veux de quoi tu as envie pour... Voilà, quel est ton choix de vie? Un joueur comme Kylian Hayes, il a quand même montré des choses intéressantes. C'est vrai que sa faiblesse, c'est le manque de régularité dans le tir de loin. Par contre, j'ai trouvé que cette année avec Détroit, il a quand même montré des choses vraiment intéressantes dans la gestion des matchs avec beaucoup de passes décisives, peu de balles perdues. C'est un défenseur correct. Il est encore jeune. Mais par contre, effectivement, les années défilent. J'ai l'impression que c'est un petit peu... faut voir quels sont... est-ce qu'il y a un club NBA qui est prêt à te faire une proposition, mais à te proposer un vrai rôle avant tout? Ou est-ce que derrière, bah, tu as des équipes européennes de haut niveau qui peuvent frapper à ta porte? Je pense pas avoir la réponse parfaite pour ces joueurs-là, mais c'est vrai que pour des jeunes joueurs, des joueurs qui sont encore jeunes, comme Kylian Hayes, Théo Malédon, il faut être sur le terrain, quoi. Il faut être sur le terrain, il faut jouer. C'est des joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent. Voilà, moi, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils se retrouvent sur le terrain dans des rôles où ils seront responsabilisés. Après, que ça soit en NBA ou en Euroleague, pour moi, en tout cas, je sais bien que c'est pas, ils n'auront pas le même discours, mais pour moi, peu importe. L'important, c'est qu'ils soient sur le terrain.
Parce que finalement, la NBA, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais ils ne donnent pas la chance. » Mais historiquement, ils donnent la chance. Enfin, on a vu quand même des joueurs européens arriver qui ont eu leur chance. On a vu, il y a des MIP qui ont été européens, Boris Diaw. Il me semble qu'il y avait Turkoglu, non, était MIP. Et en fait, on parle on revient sur l'histoire de Gilbert.
Gilbert.
Ce bon vieux Gilbert. Et pour moi, il y a Kevin qui était chez Kevin Serafin, qui était chez First Team, et qui bon. Alors Kevin a fait du Kevin, et c'est pour ça que je le kiffe. J'adore Kevin Serafin quand il dit bon, c'est un con. J'ai tout de suite vu que c'était un con depuis le début. C'est un con. C'était un génie en attaque, mais voilà. Et il y a quand même une bande d'Européens et de Français, moi, je trouvais, qui contredisent complètement Gilbert à ce niveau-là. C'est, le Big Four que pourraient être Joachim Noah, Ronny Turiaf, Kevin Serafin et Mike Pietrus, des Energizers. Des gars durs au mal, des bêtes de travail, des super coéquipiers qui se seraient sacrifiés pour leur superstar comme Joachim Noah avec Derrick Rose ou Turiaf avec Kobe, même s'il a laissé sauter par-dessus une voiture. Mais oui, c'est lui dans la pub de la Nike qui et ça prouve. Tu vois, Kobe était ultra proche d'un mec comme Ronny Turiaf. C'est pas pour rien. Enfin, t'imagines Kobe Bryant, pour qu'il soit pote avec quelqu'un, ça doit pas être facile. Mais alors très pote, ça doit être encore plus dur. Donc, il doit y avoir des choses qui lui plaisent dans la mentalité. Et finalement, quand on voit ces gars-là, et j'aurais bien aimé de voir ces quatre-là défendre sur Gilbert pour voir la gueule qu'il aurait fait. Ce coltiner Kevin Serafin ou Mike Pietrus, ça devait pas être marrant, tu vois.
Mais c'est marrant que tu parles de Kobe, parce que j'avais pas pensé comme ça, mais de l'extérieur, tu as l'impression qu'il a eu trois potes dans sa vie, parmi les basketteurs. Donc Derek Fisher, ok, mais derrière, c'est Ronny Turiaf et Pau Gasol, quoi. Et c'est marrant, ça, ouais. Quand tu dis, bah, c'est peut-être le mec qui a le plus personnifié le côté dureté, marcher sur son ennemi, être dur 24 heures sur 24. Et tu dis, bah, dans ses trois potes, trois meilleurs potes, il y en a deux qui sont justement des Européens, donc Ronny et Pau Gasol, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais. Moi, j'avais envie de parler, alors je vais les grouper un petit peu là, mais trois des joueurs étrangers qui m'ont le plus fait kiffer en NBA et en équipe nationale, c'est Manu Ginobili, donc lequel je vais pas forcément revenir en détail, Luis Scola et Andrés Nocioni, de cette incroyable génération argentine. Moi qui, enfin, je vous le disais il y a peu là, moi c'est le plus beau jeu que j'ai vu développer, plus beau jeu de basket, c'est cette équipe d'Argentine. Et pour le coup, pareil, trois joueurs où tu peux pas parler de manque de dureté. Alors là, pour le coup, c'est pas des Européens, c'est des Argentins. Mais Andrés Nocioni, je pense que c'est l'un des plus compétiteurs les plus taré que j'ai vu de toute ma vie sur un terrain, quoi. Vraiment survolté à tel point que des fois t'as envie de le dire, non mais tranquille Andrés, là, redescends un petit peu là, t'es trop,
t'es à plus 30, il reste 2 minutes,
quoi. Le match est fini depuis une heure là, redescends un petit peu, quoi. C'est un petit peu ça, et voilà, et une merveille de jeu. Tu sais, c'est assez marrant parce que j'avais vu une interview de Chris Bosh à qui on demandait donc Chris Bosh qui a quand même été un défenseur extraordinaire, notamment ouais. Ces années avec le Heat, là, c'est sa polyvalence défensive qui avait permis justement au Heat d'être aussi fort. Et on lui demandait quel était le joueur sur lequel il avait eu le plus de mal à défendre de toute sa carrière. Et à ma grande surprise, il avait dit Luis Scola. Il avait dit Scola, j'ai jamais rien compris, ni à son timing, ni à son jeu d'appui et à ses feintes. C'est toujours le gars où j'arrivais, je me prenais ma troisième faute en milieu de deuxième carton, j'étais obligé de sortir et tout. J'ai jamais compris ce que faisait Luis Scola. Et voilà, un régal. Scola, Oberto, une école de big men avec des appuis, travail d'appui fantastique. Voilà, cette génération argentine m'a fait vibrer en NBA. Quel plaisir de les avoir vus jouer, quoi.
Moi, j'ai moins kiffé la génération espagnole parce qu'ils nous tapaient tout le temps, mais on parle toujours de Pau Gasol, mais enfin, donnons un max de crédit à son frère aussi. Quel joueur. Le rôle qu'il prend, par exemple, quand il gagne sa bague à Toronto, mais le rôle est génial. Alors, autre le rôle de mentor, mais le rôle de créateur d'espace, de passeur, d'excellent poseur d'écran. Alors, il pose pas les écrans bien comme un autre Européen qui est Gortat ou si vous voulez. Si, j'imagine que toi, Théo, qui coach, bon, tu coaches une équipe féminine, donc tu vas peut-être pas leur demander de poser les écrans de Gortat, mais si tu devais apprendre le pick and roll et la manière de se rapprocher du cercle, de poser des écrans, je pense que les écrans de Gortat, c'est des crash tests permanents. Hein.
C'est clair.
C'est incroyable, c'est le grand poseur d'écran que j'ai vu. Mais ouais, de Marc Gasol, et puis Marc Gasol, il a pas eu une, enfin, il a quand même réussi à plus ou moins garder à flot à chaque fois une équipe de Memphis qui changeait d'effectif comme l'OM chaque année, c'est-à-dire qui renouvelait pratiquement tout le roster. Donc il était toujours là, comportement irréprochable, et puis il ressemble à un lion, quoi. Puis d'ailleurs, il ressemble vraiment, si je devais prendre la tête d'un joueur NBA pour un lion, je prendrais la tête de Marc Gasol quand il avait les cheveux longs.
Ouais.
Quel battant, quoi. Un battant.
Ouais, non. J'ai rien de plus à dire. C'est vrai qu'au début, on s'était dit, tout le monde s'était dit, le fameux trade qui permet à Pau Gasol de débarquer aux Lakers, tu te dis, mais c'est quoi cette arnaque de malade et tout, parce
oui.
Marc était même pas encore, il était même pas encore NBA, il devait être encore, il était encore en Espagne, je crois, en Liga ACB, et au bout du compte, carrière incroyable de Marc Gasol, c'est fou. Et puis dans cette génération, moi, enfin, j'en parlais une fois, tu sais, dans nos plaisirs inavoués là, dans nos petits kiffs cachés, j'en place une pour Calderon, moi, que j'ai adoré le niveau de jeu. Et tu sais, pour moi, c'est un peu le meneur parfait, en fait, qui, s'il shoot, c'est à haut pourcentage, il n'y a pas de balles perdues, gestion de jeu parfaite, que des balles, enfin, ratio passe décisive, balles perdues incroyables. Ouais, j'ai adoré Calderon.
C'est rarement Calderon, c'est le contraire du joueur qu'on voit souvent à NBA, qui fait un truc en se disant, on verra bien. genre Jordan Poole, D'Angelo Russell, ou plein de joueurs qui se lance dans un truc en se disant peut-être ça marche. On verra si Dieu veut. On y est avec moi sur ce coup-là. On verra bien. Sinon, tant pis. Non, Calderon, c'était. Il y avait peu de déchets. En effet, à ce niveau-là. Pareil, documentaire. Vous voulez un documentaire absolument superbe. Vous allez voir sur Amazon Prime. Il y a un documentaire sur Pau Gasol. Sur la période où il veut faire une dernière campagne de, je ne sais plus si c'est Coupe du Monde aux Jeux Olympiques, et il se prépare pour ça parce qu'il s'est blessé. Il y a toute son enfance, la période à Memphis, la période aux Lakers, et la manière dont il rentre en Espagne pendant le Covid pour s'entraîner. Il fait des entraînements en visio, et il rentre en Espagne, et donc il est dans des petits gymnases, il est là, il retaffe, c'est le moment où sa femme va avoir un enfant. Enfin, c'est le Pau Gasol intime, personnage merveilleux, on le voit encore aujourd'hui, la figure paternelle de toute la famille Bryant encore. Je pense que ça doit être un type vraiment génial à rencontrer en vrai. Il doit être d'une gentillesse, d'une patience. Et tu parlais de Chris Bosh. Si tu regardes bien, je trouve qu'on lui pose pas assez de questions à Chris Bosh parce que ses analyses, elles sont toujours bonnes. Mmh. Et quand on lui pose des questions, il répond toujours avec une grande sincérité, une grande intelligence. Et j'adore vraiment. J'adore ce joueur. J'adore le personnage. Personnage génial.
Ouais, non, c'est clair. Et t'as raison sur le documentaire sur Pau. Et j'en profite une petite parenthèse parce que tu parlais de ses entraînements en visio. Il les fait avec Raúl López. Et en fait, on a oublié, mais de cette génération d'or incroyable de les Niños de Oro, de Espagnol, le meilleur joueur en jeune, c'était pas Pau Gasol, c'était Raúl López, meneur au talent incroyable, drafté par Utah et malheureusement dont la carrière a complètement déraillé en raison de blessures au genou à répétition. Derrière, il a fait une belle carrière en Europe, mais jamais la carrière son talent le prédestinait. Et j'avais été épaté de voir, enfin j'ai trouvé ça assez touchant de voir que c'était ce joueur-là dont la carrière a pas pu aller au bout en raison de blessures au genou, qui était devenu un petit peu le mentor de Pau et qui lui donnait des exercices à faire pour modifier son jeu. Et ce passage-là, il est passionnant parce qu'en fait, on voit Pau Gasol qui essaie de réinventer son jeu en fonction de l'état de son corps, en gros, et de changer des choses qui avant, il faisait de manière automatique, dire non, ça, je peux plus le faire. Par contre, il faut que j'aille faire ça. Un travail énorme. Et tout ce passage-là, il est passionnant dans le documentaire.
Et surtout, tu vois, je n'ai jamais vu, et je crois qu'il y a eu un autre documentaire sur Netflix cette fois-ci, sur le lien indéfectible entre toute cette génération de joueurs espagnols qui a de cette équipe nationale. C'est-à-dire, mais ils iraient se chercher, même au fond du Titanic, ils iraient se chercher les uns les autres, ouais. tellement ils sont proches et tellement ils sont prêts à tout pour aider leur pote. Bon, en plus, Pau Gasol qui était leur leader, mais c'est l'amour qui se porte l'un les autres. Enfin, c'est animal presque, le respect qui se porte et cette envie de continuer ensemble. En fait, c'est l'envie de continuer ensemble. Ils ne veulent pas que ça s'arrête, tout simplement.
Ouais, c'est clair. Là encore, je fais le parallèle avec cette équipe d'Argentine parce que en 2012, donc aux Jeux Olympiques, c'est leur dernière campagne ensemble. Après, Scola a continué, mais Ginobili avait arrêté. Ils jouent pour la médaille de bronze face à la Russie. Alexei Shved, le meneur russe, qui fait un match incroyable et finalement c'est la Russie qui l'emporte d'un rien. Et tu sais, après le buzzer final, les joueurs argentins se sont rassemblés. On fait une espèce de grande embrassade parce qu'ils savaient que c'était leur dernière compétition ensemble. Et franchement, moi, dans le public, j'avais des frissons de malade parce que tu voyais, c'est un petit peu pareil, des gens qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 14 ans, qui ont passé toute leur adolescence, toutes ces années qui sont formatrices pour la personne que tu vas devenir ensemble. C'était hyper touchant de les voir se rassembler comme ça. Tout à l'heure, tu commençais à en parler rapidement, mais il y a deux joueurs finalement qui ont été aussi un petit peu, en avance sur leur temps, je pense, c'est Edo Turkoglu et Mehmet Okur. Deux joueurs turcs, et finalement tu dis un meneur de grande taille comme Turkoglu, le passage incroyable, enfin ces saisons à Orlando fantastique, l'année où ils vont jusqu'en finale NBA même face aux Lakers, où finalement c'est un mec de presque pas loin de 2m10 qui joue meneur de jeu, qui joue les pick and roll, qui crée le jeu, qui tire de loin. Et de son côté, Mehmet Okur, un grand qui shoot de loin, que ça soit avec Détroit et puis après avec le Jazz, tu te dis, c'est pareil, c'est des joueurs, imaginons qu'ils se présentaient aujourd'hui à la draft, ils auraient une cote incroyable. Enfin, je pense que la NBA saliverait en voyant ces joueurs arriver dans ses rangs.
Mais c'est surtout qu'ils ont dû avoir une petite romance les deux, ils ont dû faire un enfant qui s'appelle Sengun, non?
Il y a de ça, ouais, c'est clair.
Non, mais c'est vrai, quand tu le vois,
Ouais,
lui,
j'adore.
c'est la version de 2.0, le mix de 3.0 de Turkoglu et Mehmet Okur, c'est-à-dire la dureté, les fondamentaux, la mobilité et la rage. Bon, je pense que un des plus premiers grands souvenirs, à part de Joël Embiid pour Victor, ce sera la pilule qui s'est mangée l'autre jour contre les Rockets. Hein. On parle de clinique souvent. Là, il en a pris un, mais bon, il était dans une zone incroyable. Ça ne veut pas dire que Victor peut faire la même. Hein. Mais waouh, lui, c'est vraiment un bonheur de le voir jouer. Et encore une fois, même physiquement, j'ai l'impression de voir un mix entre toute cette bande-là de Mehmet Okur, de Turkoglu, et c'est vraiment leur héritier absolu, quoi.
Mais j'adore Sengun, je le disais à
Ah
Chay et
ouais.
Antoine à plusieurs reprises. Ma plus grande crainte, c'était que Houston ne se rende pas compte du
Ah
joueur qu'ils
oui.
avaient.
Ce
Et
qu'ils sont
donc,
capables de faire, hein.
ouais, exactement. Et du coup, moi, c'est quel soulagement de voir que avec l'arrivée d'Ime Udoka, on l'a enfin responsabilisé à la hauteur de son talent. Dans le match dont tu parles face à Victor, son jeu d'appui,
Ah, le
c'est
footwork,
du
ça n'a aucun
bonheur en
sens.
fait.
Ah
Footwork
oui.
de grand comme ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins. Maintenant, il y a moins de jeux postés ou du moins moins de jeux orientés vers les grands. Et là, tout le footwork, c'est somptueux, quoi. Somptueux.
Mais, et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, le vrai moyen de faire relancer, au moins une fois d'essayer le All-Star Game, c'est de faire le USA contre le reste du monde. Et on verra bien. Et on va voir. Si tout le monde décide de jouer le jeu, on pourra voir. Tu parlais de Dino Raja tout à l'heure, évidemment, le duo avec de Split qui n'a jamais pu se remettre outre-Atlantique, mais une des rares satisfactions des Celtics des années 90. Dino Raja, très très grand joueur. Moi, j'ai adoré Dragic. J'ai adoré
Ah,
Dragic
bien sûr.
et j'aimerais bien, toi qui es la hit culture chevillée au corps comme personne. Un Dragic dans son prime au 8 de l'année dernière, ils vont au bout.
Mais même l'année dans la bulle, en fait, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est cette finale Heat contre les Lakers. Dragic se fait la cheville au premier match. Derrière,
Ouais.
il ne peut pas jouer du tout. Et Bam Adebayo se fait l'épaule. Et donc, en fait, derrière le Heat. Dès le début de la finale, est handicapé de deux de ses trois meilleurs joueurs. Et alors, je dis pas que Miami regagnait à coup sûr face à cette équipe des Lakers qui était assez voilà, qui était sur un nuage. Mais c'est pas du tout la même finale. Moi, j'ai adoré Dragic. J'ai pu voir, j'ai eu du bol. J'ai vu sa première grande compétition avec l'équipe de Slovénie. C'était
Eh oui.
2007, l'Euro 2007 en Espagne, où il joue avec son grand frère. T'as encore les frères Lorbeck, etc. Une équipe de Slovénie bourrée de talent. Et lui, il avait, je crois, il s'était pété le nez. Donc il jouait avec un masque, il avait dû avoir 18 ans, un truc comme ça, et c'était un dragster. Tu disais, déjà tu te posais la question de savoir si allait pas aussi vite, au moins aussi vite que Tony Parker, ce qui était du jamais vu en Europe, avec un culot, une science du jeu. Moi j'ai adoré Goran Dragic, ouais, carrément.
C'est pas un hasard si sur, on en parlait la semaine dernière, cette fameuse action où c'est lui qui est au compte sur Derrick Rose, mais c'était un joueur, un slasher tout aussi explosif et un finisseur génial. Et il disait physiquement la dureté, mais attends, oui, t'es dur,
Ah
Dragic,
ouais,
quand
c'est
même.
clair.
Putain, j'ai
Ouais.
pas envie de me. Quand il est champion d'Europe avec la Slovénie, il joue le. Bon, il y a l'autre taré derrière qui enquille des points, mais il est costaud, hein, le père. On passe enfin peut-être on va passer sur parce qu'on en parle de chaque semaine tant et plus de Jokic dans la MVP race, de Luka Doncic, de ces grands joueurs, et je pense que on en parlera à l'aube de la fin de leur carrière, mais il y a peu de chances qu'ils ne fassent pas partie des trois meilleurs joueurs européens de l'histoire, en tout cas en NBA. On va peut-être parler du numéro 1 quand même, on peut pas le passer parce que dans les commentaires sinon on va dire vous avez passé tout ce temps sans parler de Dirk Nowitzki. Bon, pour toi Théo, numéro 1 incontestable encore aujourd'hui.
Incontestable, je sais pas. Je pense que la discussion elle est ouverte quand même. Moi, on avait fait un petit vote, enfin un petit classement sur Basket Session. Moi, j'avais choisi Pau Gasol au bout du compte à cause du palmarès en fait, qui est quand même bien plus lourd si tu regardes les titres remportés avec l'équipe d'Espagne, notamment. Donc, je pense que oui. enfin moi ça me choque pas du tout qu'on dise que Dirk Nowitzki est le meilleur joueur européen de tous les temps à l'heure actuelle. Je pense que la discussion elle est
en NBA,
plus
hein, bien sûr.
En NBA,
en NBA
bien sûr,
bien sûr. Ouais.
Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais je pense que voilà, la discussion elle est un peu plus large que ça. Mais oui, j'ai adoré Dirk. Je t'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, tu verras sous un autre angle. Mais là aussi, là, c'est la personnalité, quoi. Enfin, moi, je me rappelle de cette anecdote qu'on m'avait racontée où au retour d'une équipe. Une compétition internationale, l'avion que devait prendre l'équipe d'Allemagne avait du retard, donc il devait attendre 3 heures à l'aéroport. Dire qu'il a sorti sa guitare, elle a commencé à chanter, tous les mecs de l'équipe d'Allemagne étaient autour de lui. C'est des gens qui, un peu par rapport à ce que tu disais sur Marc Gasol ou Pau Gasol, c'est au-delà de ce qu'ils ont montré sur le terrain. Je trouve que c'est des joueurs qui humainement ont dépassé, enfin leur impact dépasse celui qu'ils ont eu sur un terrain, je trouve.
Oui, et puis on parlait de personnages attachants, je pense que c'était un des plus grands. Je sais même pas si je l'ai vu dégoupiller une seule fois, ce bon vieux Dirk. Je ne sais même pas si Kevin Garnett y est arrivé une fois, puisqu'il a essayé d'enclencher tout le monde. Je pense que ce qui fait la diff dans la tête des gens, c'est 2011. C'est 2011, c'est le fait de porter à lui tout seul, parce qu'il n'y avait pas d'autres superstars dans l'équipe, ce titre inattendu. Et puis même quand il emmène l'équipe d'Allemagne à chaque fois, il l'emmène très haut, sans personne autour, sans grand joueur notoire autour de lui. Je pense que c'est ce qui a marqué les gens au-delà de plein de choses. Et puis, il y a un move signature aussi, plein de choses comme ça.
Et puis, il était MVP.
MVP des finales, MVP, je ne sais pas combien de fois, je crois 14 fois All-Star, je ne sais pas combien de fois All-NBA. Enfin bon, le palmarès, il est sans commune mesure. Sans commune
et
mesure.
Puis, tu vois le respect qu'avaient ses adversaires. Je me rappelle que... Shaq, il dit pas toujours des choses intéressantes, mais c'était marrant. Il disait que il choisissait un peu les joueurs qui laissaient ses enfants regarder jouer au basket,
oui,
et qu'il trouvait lui aussi que certains grands qui passent leur temps à s'écarter, il disait en gros c'est pas du basket, c'est un grand, tu devrais te rapprocher du cercle. Mais il disait que ouais, par contre il laissait ses enfants regarder Dirk Nowitzki. C'était un peu sous forme de boutade, mais tu sentais le respect vraiment qu'il y avait pour Dirk. Il y a aussi cette action, tu sais, je l'ai revu récemment là où tu vois Dirk Nowitzki face aux Lakers. Kobe est blessé, donc il est sur le banc. Il rentre une espèce de turnaround du côté de la ligne de fond, hyper dur. Et au moment où il va repartir en défense, t'as Kobe qui est sur le banc, qui lui tape dans la main et qui
regarde son coéquipier parce qu'il y a temps mort. Il y a temps mort, et je crois que c'est un game winner. Et je sais plus qui défend fort sur lui. Et Kobe, il regarde le gars, son coéquipier, il fait tough shot. Quoi. Il regarde,
ouais.
Tu peux rien faire. Genre, il est dur, mais. Et même Dirk se retourne pour regarder qui c'est et le check. Ouais. Quand tu gagnes le respect comme ça, on rentre dans des sphères qui sont incontournables. Mais Kobe avait, tu parlais de Tony dans le documentaire sur Tony Parker, il n'est pas intervenu dans beaucoup de documentaires Kobe Bryant. Il est dans celui de Tony en disant clairement, il est une des fortes raisons pour lesquelles j'ai pas plus de bagues. C'est beau de dire ça.
Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai encore quelques-uns.
Qui puisse dire ça de moi.
C'est ça.
La seule raison pour laquelle un mec aurait pas eu de bague à cause de moi, c'est parce que j'ai perdu. C'est moi qui ai amené la bague et que je l'ai perdue.
Tu as paumé.
Et j'ai paumé en route.
Allez, tu sais, on parle beaucoup des 5x5, là, de quand est-ce que Victor va en signer un, etc. Moi, il y a un joueur que j'ai adoré, c'est Andrei Kirilenko, qui était pour moi le joueur complet par excellence. Le genre de mec, effectivement, à pouvoir finir avec plus de 5 points, plus de 5 rebonds, 5 passes, etc. Partout, et qui est 47. Alors, c'était effectivement pas forcément un scoreur d'élite, mais par contre, en termes de capacité à tout faire sur un terrain... Et aussi à pouvoir dominer un match sans marquer. Vraiment, c'était, il le faisait en Europe, il l'a fait en NBA, il l'a fait avec l'équipe nationale. Encore une fois, la Russie était championne d'Europe en 2007. Elles ont fait une campagne incroyable. J'ai adoré Andrei Kirilenko.
Il y a quand même des joueurs qui. Alors, curieusement, j'ai l'impression que tu es un peu comme moi. Les joueurs étrangers, on compte jamais les Canadiens. Bon, j'ai tendance à pas trop les compter parce qu'ils font quand même partie de la formation européenne. Sinon, on pourrait parler de Steve Nash, bien sûr, et de toute cette génération-là. Dans les grandes déceptions européennes, il y en a eu. Moi, il y en avait un que je pouvais pas blairer. c'était comment il s'appelait? Sacha Vujačić. Oh là là, quand il était aux Lakers. Je sais pas si tu te rappelles de lui, une bien sorte sûr. De et je l'embrasse parce que il me fait kiffer, mais une sorte d'Étienne Carbonnier de shooter à 3 points, tu vois, physiquement. Et en plus, toujours en train de flopper, toujours en train de gueuler, toujours jamais content. Et un joueur de devoir qui faisait pas ses devoirs, je suis désolé. Les campagnes de playoff, quand il gagne les deux titres, là, il est nul. Il est, je crois, à 30% à 3 points à peine. Bon, il met les deux derniers lancers francs pour sceller le titre contre Boston. Ça, respect pour ça. Mais voilà, j'ai toujours trouvé, parce qu'il a joué longtemps, je crois qu'il joue 6 ou 7 ans aux Lakers. Il joue longtemps. Après, des déceptions, on en a. Bon, Antoine Rigaudeau, pour moi, est une des plus grandes. Et des joueurs comme Johan Petro, etc. Mais curieusement, j'ai regardé un petit peu dans la tête des Américains et de la presse américaine, et je les trouve super durs. Ils disent que le plus grand bust de l'histoire européenne, c'est Fred Weiss, qui n'est jamais allé en NBA d'ailleurs, mais qui a eu pour lui deux choses terribles. Il était censé succéder à Pat Ewing et à une génération de pivots dominants, alors qu'il s'éteignait à l'époque. Et puis, il a toujours eu pour lui, contre lui, le dunk de 2000. Et donc, il n'est jamais vraiment... qu'il a un peu démoli psychologiquement. Et je suis tellement content, Fred Weiss, de le voir. Parce qu'on connaît son histoire, elle n'est pas marrante. Il a eu quand même de gros soucis. Et de le voir s'éclater comme il fait à Bein, chez les copains d'NBA Extra, et qu'il soit dans des analyses qui sont toujours pertinentes dans son analyse du jeu, et notamment quand il explique le travail des pivots, et quand il commente. Regardez Fred Weiss commenter Nikola Jokic, et vous allez voir le type. C'est comme Théo, avec encore plus d'étoiles dans les yeux, tellement tu sens que c'est trop de bonheur de voir quand tu regardes Jokic s'éclater.
Mais tu parles de Jokic, du coup, ça, je suis obligé de parler d'un autre pivot, parce que longtemps, ça a été t'es Jokic, tu es en train de faire balancer mon cœur, là, parce que pour moi, mon pivot préféré de tous les temps, je pense que c'est Hakeem Olajuwon.
Oui.
Alors, formation, effectivement, à l'université de Houston, donc formation universitaire, mais voilà, joueur nigérian. En termes de palette technique, en fait, surtout, je pensais pas que je verrais un jour un pivot pouvoir rivaliser avec ce qu'Olajuwon était capable de faire. C'est qu'est-ce qui m'a fait rêver, le Hakeem Olajuwon, sur la vivacité. Alors, ok, il a peut-être, faut pas aller regarder son nombre de passes décisives parce que c'était un trou noir énorme. Mais par contre, une qualité de jeu offensif et défensif d'ailleurs, parce que c'était vraiment un two-way player. Il est parmi les meilleurs attaquants et les meilleurs défenseurs de tous les temps en termes de palette technique. Kiff énorme d'avoir vu Hakeem Olajuwon, et je me suis régalé autant en regardant sur YouTube. Il y a quelques vidéos où on le voit essayer d'apprendre les rudiments de son jeu. On le voit avec Kobe, on le voit avec LeBron, on le voit avec Dwight Howard. Quand tu le vois à je sais pas quel âge répéter ses moves avec toujours autant de fluidité, tu dis non, mais lui, donnez-lui un 10-day contract. Là, il peut aider. Il y a au moins 4 équipes NBA qui peuvent aider dans leur secteur intérieur, quoi.
Et puis surtout, un type qui, comme tu viens de le dire de manière très juste, est consulter et aide des joueurs qui sont de gabarits totalement différents, et tu as l'impression qu'il aide encore plus de gens qui ne sont pas intérieurs que d'autres. Ça prouve l'envie et le côté scientifique de l'étude du footwork d'Hakeem Olajuwon. Et puis on attendra bien sûr de voir ce que va faire Victor, mais peut-être que quand on refera Hoop Culture, dans 5-6 ans, car nous serons toujours là, nous serons peut-être en quotidien, 5-6 ans, sur ESPN. Peut-être que quand on fera Hoop Culture dans 5 ans, on se dira que Victor est déjà pratiquement au-delà de Luka Doncic et toutes ces choses-là, donc on lui souhaite. Il y en a dans les flops un petit peu, pour terminer, c'est le dernier, je ne suis pas là pour leur taper dessus, parce que loin de là, mais pour illustrer la difficulté tant de s'imposer, mais parfois aussi de l'accueil, c'était Potapenko, le train ukrainien, le Ukrainian train, qui c'est en NBA, c'était plus un intercité qu'un TGV, le pauvre. Mais voilà, 10 ans en NBA quand même, Potapenko, il a fait. 10 ans, ouais. Hein, il fait. Voilà. Et si vous voulez lire une histoire je ne sais plus si c'est dans le MOOC 2003, oui, c'est dans le MOOC 2003 qu'on parlait du numéro 2 de la draft, j'ai oublié son nom, c'est terrible.
Ah, de Darko Milicic.
De Darko Milicic, ouais. Ouais. Bien sûr.
Ouais, ouais. Mais il y en a plein, effectivement, Zoran Planinic, Giricek, il y a plein de joueurs, plein d'autres joueurs européens qui ont laissé des marques plus ou moins marquantes. Moi, je voulais finir avec un dernier joueur étranger quand même, qui a été extrêmement impactant, Yao Ming. Et là aussi, je pense que les gens ont un peu oublié, en fait, à cause de ses nombreuses blessures, le joueur inarrêtable que ça a été. Au-delà de sa taille, un toucher de ballon incroyable. Et là aussi, un petit peu, on revient à ce qu'on disait sur Pao, sur Dirk. Humainement, une personne vraiment à part, une intelligence très fine. Voilà, Yao Ming, alors je sais que ce n'était pas forcément sexy, des joueurs aussi grands, costauds comme il l'était, mais un vrai, vrai joueur de basket. Et tu sais, souvent, il y avait ces espèces de polémiques autour de ces qualifications automatiques pour le All-Star Game, parce que voilà, le public chinois très nombreux votait. Allez regarder les stats, regarder ses confrontations avec les meilleurs de l'époque. C'était un joueur incroyable.
Bien sûr, et comme tu dis, archi respecté, et personne n'a jamais crié au loup, en tout cas dans les joueurs NBA, en disant c'est un snob pour moi parce qu'il y a Yao Ming dans le tank. Hein. Ça n'existait pas.
C'est clair. Et puis, comme tu disais, on aurait pu parler de Steve Nash, bien sûr, quel bonheur, quoi. Pareil, quoi, les Suns de 7 Seconds or Less, là, c'était le plus beau show de basket de l'époque. Quoi. Quel bonheur d'avoir vu cette équipe jouer.
Et tu vois, dans les dunkers, la semaine dernière, on avait oublié de parler d'Amare Stoudemire, qui était un sacré dunker aussi. Et moi, un dernier joueur étranger que j'aime beaucoup, tu vois, il parlait, encore une fois, ce Gilbert, des joueurs qui arrivent trop frêles, sans dureté, et un qui a su... qu'on a cru comme ça, on s'est dit il tiendra pas, et qui s'est étoffé et qui est maintenant un titulaire indiscutable dans n'importe quel roster, c'est Clint Capela. Et j'aime beaucoup Clint Capela, je trouve déjà superbe, super mec aussi, et pareil, qui maintenant est indiscutable dans un roster, dans un 5, qui s'est tenu à son maillot, qui est un excellent coéquipier. Voilà, peut-être pas au bon endroit, peut-être pas au bon endroit pour se développer le mieux, mais
ouais, puis ils ont été avec Houston quand même. C'était, je pense, ses meilleures saisons. C'était son entente avec James Harden. Alors le jeu était pas kiffant pour les spectateurs, mais par contre.
Non, mais il était bien là pour poser les écrans, quoi. Par contre, ouais. pour que.
Et rouler au cercle dur, ouais, carrément.
Ouais, ouais, exactement, exactement.
C'est clair. Bah, de toute façon, n'hésitez pas, comme toujours, hein, vous nous dites, vous, ceux qui vous ont le plus fait vibrer, si on a eu des oublis. Alors forcément,
on a oublié.
Pas listé tous les joueurs, hein, mais c'était de parler de ceux qui nous avaient marqué d'une manière ou d'une autre. On sera ravis de découvrir tout ça.
Et encore une fois, quand on vous fait une thématique, c'est important de le dire et de le préciser, parce que vous êtes beaucoup à nous dire, vous n'avez pas commencé. C'est pas des classements qu'on fait, on ne fait pas des classements all-time. C'est jamais des tops, c'est les tops, mais dans le désordre, complètement. La semaine dernière, pour la thématique Dunk, vous avez dit on aurait dû commencer par Do Wilkins, on aurait dû... Non, non, écoutez le podcast en entier, et généralement, ça arrive, et continuez à nous dire, vous, dans le forum de discussion, parce que la discussion elle est ouverte, la communauté Hoop Culture elle est là pour parler, pour discuter, et on reconnaît quand vous nous dites des choses super, il n'y a rien à dire, vous êtes les meilleurs, et de loin.
C'est clair. Allez, je propose qu'on passe au coup de cœur de la semaine, si t'en es OK. Et moi, j'en ai un, je vais me permettre de commencer, parce que j'ai découvert par hasard, je connaissais un documentaire que je ne connaissais pas du tout, qui est sur Amazon Prime, et qui s'appelle Dirk Nowitzki, The Perfect Shot, que j'avais jamais vu, et qui est sur Dirk Nowitzki, mais aussi surtout sur sa relation avec son mentor et gourou, coach Holger Geschwindner, personnage totalement improbable. Alors j'avais déjà entendu pas mal d'anecdotes autour d'Holger, mais là c'est pas mal parce qu'il est, c'est vraiment la co-star du documentaire, et sur comment ces deux personnes se sont rencontrées super, enfin dire qu'ils étaient tout jeunes, et l'espèce de je sais pas comment dire, comment leur relation s'est construite, a duré tout au long de sa carrière, et comment ce mec qui a visiblement pas d'autre passion dans la vie que d'essayer de trouver la technique la plus efficace pour créer le shoot parfait, comment ils ont pu avancer main dans la main. Le documentaire est vraiment passionnant. Encore une fois, on voit la personnalité hors norme qui est Dirk Nowitzki. Il est super sympathique. Quand tu vois sa famille, tu comprends aussi pourquoi il a les pieds sur terre. Ses parents, t'as l'impression que... Ça, il y a une anecdote assez marrante où il raconte que dans la maison familiale, le trophée de MVP de Dirk Nowitzki est derrière le trophée de champion de la région de handball de son père. Genre, tu dis, t'sais, c'est même pas le truc qui est au premier plan, c'est derrière parce que voilà, c'est comme ça. Mais ce documentaire vaut vraiment le détour, je trouve, pour la personnalité de Dirk Nowitzki et aussi pour la relation avec Holger qui est vraiment assez passionnante.
Alors moi j'ai trois coups de cœur cette semaine rapidement.
Vas-y.
J'en ai
On est là pour ça.
deux audios, un visuel, à l'audio on arrive à on est dans une année particulière pour les États-Unis, année d'élection. Il y a Quotidien, l'émission d'Yann Barthès, qui a sorti une série de podcasts, enfin qui produit une série de podcasts qui s'appelle 50 States. Par des spécialistes États-Unis, c'est des podcasts de 20 minutes, 50 podcasts sur les 50 États. C'est super bien foutu. Par exemple, hier j'ai écouté celui sur la Californie. Ça démarre, ça passe de des lois anti-chinoises du début du 19e siècle à la ruée vers l'or, à la peur du earthquake, aux droits LGBT, etc. Ça couvre. Et puis, à la manière dont ça vote actuellement, j'en ai écouté un glaçant sur le Wyoming et sur l'absence d'écologie, sur le fait que ce soit les plus conservateurs. On apprend plein de trucs, c'est 20 minutes à chaque fois. Franchement, quand vous allez faire votre sport, vous allez au taf, vous allez courir un peu, vous déjeunez à midi, écoutez ce podcast, ça s'appelle 50 States. C'est une série produite donc par Quotidien. Donc c'est top. J'ai vu un documentaire, on parlait de documentaire, et dans 50 States, justement, hier, le créateur du podcast était chez Quotidien. Et parler de l'importance de certains sports et montrer une photo avec Victor Wembanyama à côté de Tom Brady. On ne savait pas lequel était le plus content de l'autre d'être à côté. Et il y a un super docu sur Apple TV qui vient de sortir sur la dynastie des New England Patriots. On parle de NFL. Mais c'est hallucinant parce que ça. Alors, déjà, ce n'est pas livré d'un coup. Là, il y a eu quatre épisodes, puis il y en a d'autres qui viennent d'arriver. C'est hallucinant le nombre d'insides qu'ils ont. Et le nombre d'inside en bord de terrain où tout le monde devait être mic'd up, ce qu'ils appellent avec le micro. Et donc, ils ont dû faire des milliards d'heures d'archives où on voit donc le fameux coach Bill Belichick des New England Patriots, coach mythique de NFL, la relation avec Tom Brady, du côté gagnant de Tom Brady qui revient de blessures super graves. Et c'est hallucinant parce que, par exemple, sur le moment de la blessure de Brady, il y a l'impact et on l'entend dire « aïe » comme ça, alors que
D'accord.
presque on entend le bruit du genou,
Oh
du ligament qui lâche. Et c'est fou. Alors c'est bon. Alors après, il y a tout le côté, la fierté de la ville de Boston. Voilà, c'est super bien fait sur Apple TV. Je crois qu'il y a 10 épisodes, 10 épisodes de presque 1 heure à chaque fois. On apprend plein de trucs, c'est sur toute une époque, c'est vraiment génial. Ça s'appelle Dynasty sur les New England Patriots. Et si vous avez, une fois que vous avez vu, vous avez écouté un podcast, vous avez réfléchi, écouté un peu de musique, le dernier album de Eric The Architect, membre éminent du groupe Flatbush Zombie, qui a fait un album à son image, un petit peu entre l'organique, mais ça reste très authentique, ça passe d'un peu de l'électro au hip-hop, c'est un peu psyché, etc. Il y a plein d'invités, il y a Joey Badass, il y a, comment il s'appelle, il y a Channel 13 que j'adore d'ailleurs, le morceau Ambrosia était le track of the week cette semaine dans la dernière émission du Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille. Voilà, il y a plein de super invités comme ça et vraiment magnifique album, très éclectique. Eric The Architect, très belle pochette parce que c'est un fan d'Andy Warhol et d'Annie Leibovitz en niveau photo. Donc l'artwork est très beau. Eric The Architect. Je conseille d'ailleurs, je crois que je t'avais envoyé certains trucs là-dessus.
Absolument, ouais,
Oui.
absolument. Je suis toujours friand de tes recommandations d'ailleurs, Pierre Armand. Tu verras la semaine prochaine, mon coup de cœur la semaine prochaine, tu verras pourquoi. Mais j'en avais un dernier aussi en musique. Moi, c'est un morceau d'un rappeur qui s'appelle Marlon Craft. Vous êtes peut-être déjà tombé sur certains de ses freestyles parce que c'est un rappeur vraiment hyper talentueux. Et là, il a sorti son dernier morceau avec Method Man en invité. J'avais rarement entendu récemment Method Man aussi inspiré. Et j'étais obligé d'en parler dans Loop Culture parce que le morceau s'appelle Muggsy Bogues. Donc voilà, je vous encourage à aller écouter ce morceau de Marlon Craft avec Method Man, Muggsy Bogues. Si vous aimez le rap à la sauce new-yorkaise, je pense que vous ne serez pas déçus.
Et d'ailleurs, le Hoop Culture que vous retrouvez dans Hang Time chaque semaine sur Radio Grenouille, puisqu'on joue chaque semaine le track Hoop Culture. Cette semaine, mardi dernier, on avait joué un morceau de Masta Ace, comme tu nous avais dit, un morceau qui s'appelait Jordan Theory. Voilà, super track, super album, franchement, encore une fois. Richmond Hill.
Absolument, ouais. Je vous encourage à aller écouter l'album de Marco Polo avec Masta Ace, comme je vous disais la semaine dernière. Alors moi, mon coup de gueule de la semaine, bah, c'était, on l'a un peu grillé, parce que c'était Gilbert Arenas et c'est...
Oui, on l'a bien poncé, ouais.
Et c'est fanfaronnerie. Je te propose qu'on passe peut-être aux reliques de la semaine.
Allez, vas-y.
Ouais, alors vas-y, je commence. J'en ai deux, parce que la première, je ne savais plus, honnêtement, c'est là que je vois que je prends de l'âge, je ne savais plus si je l'avais déjà présenté ou non, c'est biographie de Drazen Petrovic, ouais. The Mozart of Basketball, voilà, signé de Todd Sperr, avec des avant-propos de Digger Phelps. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Drazen Petrovic, son enfance, comment il est devenu, le joueur qu'il est devenu, son passage, bien sûr, on parle de la NBA, on parle de la fin, bien sûr, mais vraiment, on voit. On en apprend énormément sur son enfance, sa relation avec sa mère, avec son frère, et son amour du basket, voilà, pourquoi il était une espèce, encore une fois je vous dis, hein, je pense que parler de Mamba Mentality quand on parle de Drazen Petrovic, c'est pas tiré par les cheveux du tout. Ce bouquin qui est sorti il y a quelques années déjà, mais qui est, que j'avais trouvé passionnant, donc The Mozart of Basketball de Todd Sperr. Et ma deuxième relique, là, je vais taper plus. Je suis loin de pouvoir concurrencer ta collection de maillots. J'en ai pas beaucoup, mais celui-ci, j'en suis très fier. Je vous avais déjà montré un maillot des Rockets de T-Mac. Cette fois-ci, c'est celui de Hakeem Olajuwon.
Ouais,
que je trouve magnifique. Ouais,
Mitchell Hennes.
Mitchell Hennes, absolument. Et ce maillot, je vous raconte la petite anecdote derrière, pourquoi au-delà du maillot, voilà, je suis très fier de l'avoir, c'est parce que j'ai longtemps coaché des U13 et que à ma grande surprise, j'avais un joueur qui avait 12 ans qui sa première saison avait été pas hyper concerné, je le sentais pas vraiment motivé, et puis il est revenu la deuxième année beaucoup plus intéressé, et puis il s'est mis à me parler des années 90, je sais pas ni pourquoi ni comment, me poser tout un tas de questions sur les joueurs des années 90 et notamment les pivots, et de me demander mais c'était qui le plus fort entre Shaquille O'Neal et David Robinson, mais c'était qui le plus fort entre c'était qui ton pivot des années 90 préféré, etc. Donc moi je lui avais dit que voilà, que c'était Hakeem Olajuwon mon joueur préféré, et à la fin de la saison, comme il passait derrière en U15 que j'allais plus l'avoir, il m'a offert ce magnifique maillot. Donc voilà, donc je passe une dédicace à mon petit gars Ariel, que je remercie encore une fois pour ce cadeau qui m'avait énormément touché à l'époque, et ce maillot qui continue d'être en belle place dans mon dressing.
Théo, il est fortiche, parce que à chaque fois qu'il parle d'un truc à quelqu'un, il a un petit cadeau derrière. Il m'avait parlé d'Allen Iverson, du coup, et Allen Iverson, il parle de Hakeem. Donc, quand vous, ouais. Quand vous croisez Théo, dès qu'il vous parle d'un truc, dites-vous bien qu'il essaye de vous la faire à l'envers pour vous le
Exactement.
Le gros il va dire, de moi, ma paire préférée, c'est la Jordan 1 Bred en 45,5. Franchement,
prenez
c'est
des
ma
notes un
paire
petit peu.
Préférée. Tout ça, c'est des messages pour que vous puissiez. Après, dans la description de la vidéo, on vous mettra l'adresse postale de Théo pour envoyer vos dons et tous vos cadeaux. Oh ben, en tout cas, c'est super sympa. Hein.
J'en revenais pas, honnêtement, j'étais bluffé, j'étais complètement bluffé, donc voilà, je suis très fier de ce maillot.
Et puis c'est le beau rouge, il t'a pas ramené le dégueu avec la fusée là.
Non, mais tu sais là que tu vois qu'il a été bien entraîné, il a été entraîné par un entraîneur de qualité, tu vois.
Qui a dû lui dire dès le début, le maillot le bleu est dégueulasse. Relique, alors c'est une relique parce que je viens de la trouver, que j'étais très content, je t'ai même envoyé en photo et je l'ai trouvé, donc c'est
donc tu l'as trouvé dans la foulée,
un vinyle. Ah ouais, quand je t'ai envoyé la photo, il était devant moi.
D'accord. Alors,
donc c'est l'autre jour on a fait un truc sur les films et je ne connaissais pas du tout ce film qui s'appelle Fast Break. D'ailleurs, quand on peut trouver le film, il faut taper Fast, plus loin, Break, tu vois. Et là, ils l'ont mis en... Donc déjà, ça n'a aucun sens. Vous voyez, donc, il y a le coach qui est là. D'ailleurs, je crois qu'il y a marqué... oui, il y a marqué coach sur son t-shirt, au cas où on se trompe, avec le ballon et sa paire de... Adidas Superstar, voilà, tranquillou, si, voilà. Et surtout, la pochette, ouais, tu vois, le ballon, il est embossé, c'est-à-dire qu'il y a le grain, donc c'est assez marrant, et c'est donc la bande originale de ce film Fast Break, musique de David Shire avec James DiPasqua, etc., et c'est surtout Billy Preston et Siwita qu'on est là, qu'on ne présente plus, chantre de la soul, de la disco. Donc il y a plein de morceaux qui sont instrumentaux, et il y en a d'autres. Alors il y a des grandes ballades un peu soul, un peu à la Whitney Houston de l'époque, et puis il y en a d'autres un peu plus pêchus, un peu plus disco, mais les morceaux par contre qui sont instrumentaux, ils sont super bien foutus, ça donne une pêche pas possible. On voit l'équipe qui est là, et puis à l'intérieur, et même les paroles et tout. Donc voilà, toutes les voix qui ont participé à ce disque. Voilà, et en plus, alors dis-toi bien que j'ai trouvé ça à Marseille dans un record shop. C'est un pressage d'époque original américain, et le gars me l'a vendu 12 euros. J'étais tellement gêné que j'en ai pris un deuxième.
Magnifique. Bah, en fait, tu sais, le film, j'ai jamais vu le film, mais j'ai entendu Bill Simmons en parler à plusieurs reprises. Je crois que c'est considéré comme un des classiques de films sur le basket aux États-Unis, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de voir ce film.
Ah ouais, Gabriel Kaplan, comme voilà. C'est un film Columbia Pictures. Il faudrait regarder. J'avoue que je suis même pas allé voir la bande-annonce, parce que je voulais rester sur ce joli petit bébé, j'avais pas envie d'être gâché par des images horribles.
Et ben écoute, en tout cas super, je vais essayer, quand même ça m'intrigue, faut que j'essaie de dénicher ce film pour voir à quoi ça ressemble.
On vous tiendra au courant. Dites-nous si vous l'avez déjà vu, dites-nous, ne perdez surtout pas votre temps, ou allez voir, c'est une pépite.
Exactement, quoi. Ben, merci d'avoir été avec nous. On a fait un petit peu long cette semaine, mais on avait plein de choses à parler. Pour ça, tu vois, finalement, il est utile ce Gilbert Arenas. Il permet de lancer des discussions.
Il n'y a pas de mauvaise pub après-midi. Hein. C'est du moment que ça fait parler de lui. Et je pense qu'à peu près 80%, 90% des analystes et des podcasts de la planète basketball ont parlé de lui cette semaine.
Exactement. Bon. Nous, en tout cas, on trouvera un autre sujet, même sans l'aide de Gilbert Arenas, pour la semaine prochaine. D'ici là, passez une super semaine. Restez à l'écoute, vous savez où nous trouver. N'hésitez pas, comme vous le savez, à partager, liker, commenter. On sait que c'est un peu fatigant de vous demander ça. C'est fatigant pour vous de nous entendre vous demander ça, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, on est ravis de continuer avec vous et on vous dit à très vite. Ciao à tous.
Salut.